Bonjour, je voudrais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et verset 48. Matthieu 5, et verset 48. Je lis. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est Jésus qui le dit. Seigneur, je te prie vraiment de tout mon cœur pour que mes frères et sœurs soient encouragés par ce que je dis ce soir et qu'ils ne soient pas pris dans un tourbillon d'erreurs, mais qu'ils comprennent bien la profondeur de ces choses afin de pouvoir te louer et se préparer pour ton glorieux retour. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Alors, c'est amusant de constater que dans toutes les religions chrétiennes, on appelle Dieu notre Père. Déjà, on fait tous cette prière, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Et que partout, les chrétiens croient être donc des enfants de Dieu. Mais que, c'est là que c'est drôle, les personnes chrétiennes comprennent les rapports parents-enfants entre Dieu et nous de façon très différente. Vous savez, l'expression « enfant de Dieu » n'est pas une distinction honorifique qui est réservée aux personnes qui croient en Dieu et qui acceptent ses conseils, comme elles accepteraient les conseils de leur papa terrestre. Notre relation parent-enfant, c'est pas une métaphore pour exprimer l'amour de Dieu pour ses créatures et leur dépendance vis-à-vis de son soutien, de sa protection, voilà. Moi, je considère que tous les gens sont des enfants de Dieu, au sens littéral du terme. C'est-à-dire que chaque personne a une origine, une nature et un potentiel divin. Chacun est d'essence éternelle. Et chacun est fils ou fille d'esprit aimé par notre Père-Mère, Dieu. Je dis Père-Mère parce que Dieu est notre Père, c'est vrai, mais il a aussi dit, Jésus a aussi dit que il veille sur nous comme une poule qui veille sur ses poussins. Une poule, c'est pas un coq. Hein. Chacun, donc, des êtres humains possède des germes de la divinité. Chacun doit choisir de vivre en harmonie ou en conflit avec cette divinité. Alors, les choses se sont passées avant que nous naissions. Les esprits se sont révoltés avant que nous venions sur terre. Et sur terre, nous manifestons qui nous sommes, si nous sommes des enfants de Dieu qui vivent en harmonie ou des enfants de Dieu qui vivent en conflit avec notre Père. La Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et par l'expiation de Jésus-Christ, tout le monde peut progresser, en tout cas a le pouvoir de progresser, et on reçoit ce pouvoir. Progresser vers la perfection et réaliser notre destinée divine, ou pas. Tout comme un enfant peut cultiver les qualités de ses parents terrestres, eh bien, au fil du temps, la nature divine dont nous avons hérité peut être développée pour que nous puissions devenir semblables à notre Père Céleste. Voilà pourquoi Jésus dit et ordonne même, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tous les conseils de Dieu peuvent aider chacun de ses enfants qui sont disposés et obéissants à recevoir de sa plénitude et de sa gloire. Et cette connaissance, elle est bonne parce qu'elle nous permet de regarder les autres avec bienveillance. Ben oui, si tout être humain est enfant de Dieu, comment pouvons-nous dire que nous n'aimons pas notre frère que nous voyons? Et comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas si nous ne pouvons pas aimer notre frère que nous voyons? Nous sommes tous des frères parce que Dieu est le Père de tous. Cette connaissance donc est bonne parce qu'elle nous permet de regarder les autres avec bienveillance. Alors vous m'avez tous entendu parler de la semence du serpent, je ne vais pas revenir là-dessus ce soir, mais juste une chose, avec tous les mélanges qui ont été faits, on peut dire que nous avons tous un peu du serpent en nous. Le mélange a été fait. Alors, nous savons qu'il y a des prédestinés au salut et d'autres qui sont prédestinés à la perdition. Il y a des vases de colère qui sont destinés à la colère. On le sait, c'est des versets qui chicanent beaucoup de monde, mais c'est quand même des versets qui sont écrits et que nous devons croire. Mais c'est pas à nous de juger qui est un vase de colère. Non, c'est pas à nous. Nous devons avoir, selon les ordres de Jésus, un regard d'amour pour tous et ne condamner personne. Ça ne nous regarde pas. Paul, par exemple, avant sa conversion, il avait toutes les caractéristiques d'un fils du diable, et pourtant il ne l'était pas. Par contre, Judas, il avait toutes les caractéristiques d'un fils de Dieu. Il était avec Jésus, il chassait les démons, il imposait les mots malades, les malades étaient guéris, c'était merveilleux. Et pourtant, la Bible dit qu'il était un démon, c'est-à-dire un fils du diable, selon Matthieu 13, 38. Le texte qui nous dit que c'est un démon, je ne me rappelle plus lequel c'est, mais il y a un texte qui dit qu'il était un démon. Et dans Matthieu 13, 38, il nous est dit que la mauvaise semence, c'est les fils du diable. Alors, on est fils de Dieu ou on est fils du diable? Écoutez, même le diable est fils de Dieu. Qui peut être quelque chose sans que cela soit Dieu qui l'ait fait? On n'a pas toutes les données pour connaître qui est qui. Le diable s'est révélé comme un adversaire. Et voilà, il est devenu celui que nous connaissons. Et puis il y a des gens qui le suivent. Il y a des esprits autrefois, avant de venir sur Terre, qui ont déjà suivi cet être-là, qui s'est révolté contre Dieu. Mais le diable était un fils de Dieu. Créé par Dieu. Un esprit créé par Dieu. Par contre, ce que la Bible nous dit, c'est d'aimer tout le monde. Bon, le diable, évidemment, parce que lui, c'est clair et net que voilà. Mais les êtres humains. À la base, tout le monde vient de Dieu. Bon, alors cela dit, allons plus loin. Ce que je crois, c'est enraciné dans les Écritures. On a à être parfait comme notre Père Céleste est parfait. On ne peut pas y échapper, c'est écrit et c'est comme ça. Nous avons à aimer comme il aime. Nous avons à nous préparer pour tout ce que notre Père Céleste veut nous donner ici-bas et dans les mondes futurs. Il y a un problème avec cette croyance, parce que elle fait peur à certains chrétiens, parce que ils sont effrayés, parce que le premier à avoir dit « vous serez comme Dieu », ben c'est le diable, dans Genèse 3, 5. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cette phrase du tentateur. On doit voir ce que la Bible dit dans son intégralité. Elle dit que notre ressemblance avec Dieu est une réalité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26, 27. Et puis après que Ève et Adam aient consommé du fruit de défendu, eh ben Dieu dit, ils sont devenus comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. On est devenu comme Dieu sur ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça suggère? Eh bien que, à partir du moment où l'homme et la femme ont volé cette connaissance du bien et du mal, que Dieu voulait leur donner d'ailleurs, mais eux ils l'ont volé, eh bien un processus de rapprochement vers la divinité était déjà en cours. Plus tard, Dieu dira: vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Psaume 82, 6. Bon, alors certains diront, oui, mais c'est dans l'Ancien Testament, c'est de la poésie. Bon, ok. En tout cas, moi je vois une chose, c'est que Jésus reprend cela, souvenez-vous. Les religieux accusent Jésus de blasphème, ils disent, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus reprend le psaume 82,6 que je viens de vous citer en disant « N'est-il pas écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Les religieux avaient oublié ce verset, là, tu vois. Et un jour, dans le sermon sur la montagne, Jésus commanda à ses disciples de devenir parfaits comme leur Père céleste est parfait. On l'a lu tout à l'heure, Matthieu 5, 48. Alors, dans le mot « parfait » que Jésus emploie, plus fort qu'en français, il y a l'idée de « entier » ou de « complet ». Et ça, ça indique, ça implique un objectif plus ou moins lointain, un effort constant. Vous voyez ? Et bien alors, il n'y a pas que Jésus. Pierre aussi, il enseigne qu'en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise, on peut devenir participant de la nature divine. Et Paul va encore plus loin. Tiens, on va lire dans Actes, chapitre 17, verset 29. Actes 17, 29. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, etc., etc., etc. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent. Et... Ah, nous sommes de la race de Dieu. De la race de Dieu, des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu. Ça, on trouve dans Romains 8, 16, 17. Écoutez, Romains, là, c'est Paul encore, hein. Donc, il y a Jésus, il y a Pierre, il y a Paul. Romains 8, 16, 17. Alors là, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois, voilà, c'est ça, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part, aussi part, à sa gloire. Et puis Jean, il va plus loin, il dit que celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui souffrira avec lui, et puis qui vaincra, celui qui vaincra, Jésus le fera asseoir avec lui sur son trône, comme lui-même a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Alors bon, ces passages sont interprétés de mille manières, c'est vrai. Et moi, je les crois tels qu'ils sont écrits, tout simplement. Dieu n'est pas un vieux gâteux. Quand il parle, on peut le comprendre, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, et ce qu'il pense, et ben c'est vrai. Point barre. Alors bon, je crois que ma croyance n'aurait pas choqué les premiers chrétiens dans l'Église primitive. Si vous lisez les premiers écrits chrétiens que je vous ai déjà recommandés plusieurs fois, vous allez voir que Irénée, qui est mort en 202 après Jésus-Christ, affirmait que par l'intermédiaire de son amour transcendant, eh bien, il est devenu ce que nous sommes, Jésus est devenu ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains, afin de nous amener à devenir ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire Dieu dans sa gloire. Irénée. Il n'y a pas que lui, un Clément d'Alexandrie, qui a vécu entre 150 et 215 après Jésus-Christ, il écrit « La parole de Dieu est devenue homme, afin que tu puisses apprendre de l'homme, c'est-à-dire de Jésus, comment l'homme peut devenir Dieu. Comment devenir parfait comme il est parfait. Participer à l'essence divine, participer à sa nature divine. » Mais au cours des âges, les références à la déification sont devenues de plus en plus contestées. Alors, au Moyen-Âge, ça a battu tous les records. Et puis maintenant, on trempote encore dans des croyances étranges au sujet d'un dieu lointain, et assez malhabile d'ailleurs. Alors, pourquoi cette croyance a perdu de sa prééminence? C'est venu principalement du fait que les théologiens ont cru et propagé l'idée que Dieu a tout créé à partir de rien. Dieu n'a pas créé à partir de rien. Il a créé à partir de lui-même. Et lui-même, ben, il n'est pas rien. les théologiens ont fait croire que la matière n'existait pas avant que Dieu ne la crée. Je suis désolé, moi je dis que Dieu a toujours été Dieu et qu'en lui était tout ce qu'il a créé. Il l'a exprimé, c'est tout, mais c'était déjà en lui. En esprit, c'était en lui. C'était dans lui en esprit, comme par exemple, quand vous lisez le texte que Jésus-Christ a été crucifié avant la fondation du monde, il a été immolé avant la fondation du monde, c'est en esprit que ça s'est fait. Pensez-y. C'était en lui, en esprit, et il a manifesté cela, vibrant à une fréquence plus basse. La matière, c'est de l'esprit qui vibre à une fréquence plus basse, je vous l'ai déjà dit. Dieu est lumière, et la lumière, c'est pas rien. C'est pas rien. Le monde matériel, il a des racines éternelles. Et en disant cela, eh bien, je rejette catégoriquement le concept de la création ex nihilo. Ça veut dire créer à partir de rien. Je crois que la terre, l'eau et tout, en fait tout, avait une existence dans un état autre que celui que on connaît. C'était depuis l'éternité. Je dis que Dieu est éternel et tout cela était éternellement en lui. Et qu'un jour, il a parlé et c'est devenu ce que nous connaissons, de la matière. Et je dis que Dieu a organisé l'univers à partir d'éléments existants en lui-même. La Bible dit « par sa parole ». Ah, vous voyez, quelque chose est sorti de lui, sa parole. La parole de Dieu, c'est un son. À moins qu'on croie que là encore, c'est une image, n'est-ce pas? C'est une image, mais à force de dire que c'est des images partout, bon, bah, alors adorons les images. Faut arrêter de dire que c'est toujours des métaphores, des images et des paraboles. Dieu a parlé, oui ou non? Il a tout créé par sa parole. Il nous dit que sa parole, c'est Jésus, c'est-à-dire lui-même. Il a créé par lui-même, pas avec rien, à partir de lui-même. Par sa parole, la parole de Dieu, c'est un son. Et excusez-moi, le son, ça n'existe que si ça peut vibrer dans un espace sans non vide. Ça peut pas. S'il y a du vide, il n'y a pas de son. Vous savez ça? C'est pourquoi j'enseigne que nous avons un passé éternel, un passé d'esprit. La lumière ou l'intelligence au fond de nous n'a été créée, elle n'a été ni créée, ni... Non, Dieu est le père de chaque esprit humain. Tout ça, c'était en lui. Le diable était en lui. Oh mon Dieu, Dieu était possédé par le diable. Mais non, c'était un esprit. C'est spirituellement que je vous parle. Jésus disait, hein, si je vous parle des choses de la terre et que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous allez faire quand je vais vous parler des choses célestes, du monde de l'esprit? Dieu, dans son amour, nous a présenté un plan, alors que nous étions dans notre passé éternel, avant notre naissance, celui de nous permettre de recevoir un corps physique et de progresser grâce à nos expériences dans notre condition mortelle, celle qui est la nôtre aujourd'hui, voilà. Alors la naissance ici-bas, c'est pas le commencement de notre vie. Nous aussi, nous étions avec Dieu au commencement. Je voudrais vous lire un texte qui est magnifique, qui se trouve dans Doctrine et Alliance, au chapitre 93, et à partir du verset 28. Écoutez bien, c'est très instructif. Celui qui garde ses commandements, donc les commandements de Dieu, reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et connaisse tout. Il est bien dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus, n'est-ce pas? Que pour le moment on connaît en partie. Bon, alors je recommence. Celui qui garde ses commandements reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et connaisse tout. L'homme était aussi au commencement avec Dieu. L'intelligence ou la lumière de la vérité n'a été ni créée ni faite et ne peut assurément pas l'être. Toute vérité est indépendante dans la sphère dans laquelle Dieu l'a placée, libre d'agir par elle-même, et il en va de même pour toute intelligence, sinon il n'y a pas d'existence. Voici, c'est là qu'est le libre arbitre de l'homme. Et c'est là qu'est la condamnation de l'homme, parce que ce qui était dès le commencement lui est clairement manifesté et il ne reçoit pas la lumière, n'en veut pas. Et tout homme dont l'esprit ne reçoit pas la lumière est sous la condamnation, car l'homme est esprit. Les éléments sont éternels et l'esprit et l'élément, inséparablement liés, reçoivent une plénitude de joie. Et lorsqu'ils sont séparés, l'homme ne peut recevoir de plénitude de joie. Les éléments sont le tabernacle de Dieu. Oui, l'homme est le tabernacle de Dieu, un temple. Et si un temple est souillé, Dieu détruira ce temple. La gloire de Dieu, c'est l'intelligence ou, en d'autres termes, la lumière et la vérité. La lumière et la vérité délaissent le malin. L'esprit de tout homme était innocent au commencement. Et Dieu, ayant racheté l'homme de la chute, les hommes redevinrent dans leur prime enfance innocents devant Dieu. Nous sommes innocents parce que nous avons reçu Jésus qui nous a purifiés de tout péché, qui nous a pardonnés. Nous sommes revenus innocents devant Dieu, des enfants innocents devant Dieu. Et le malin vient enlever aux enfants des hommes la lumière et la vérité par la désobéissance et à cause de la tradition de leur père. Voilà comment le diable fait. Vous êtes un enfant de Dieu, dans la prime enfance, innocent devant Dieu, et le malin vient enlever à chacun de vous la lumière et la vérité par la désobéissance. Mais aussi à cause de la tradition de vos pères. Eh oui. Mais je vous ai commandé d'élever vos enfants dans la lumière et la vérité. Combien de fois j'ai dit ça dans la communauté? Ceux qui l'ont fait, leurs enfants sont vraiment sauvés et marchent avec Dieu. Mais en vérité, je te le dis, enfin continue, je ne vais pas vous lire tout le livre de Mormon, mais montrez-moi que la Bible contredit cela. Non, ça ne contredit pas cela. Qu'est-ce que ça signifie? Que la nature humaine est d'essence divine, comme la Bible nous le dit. Et je vous l'ai montré au début de ce message. Ici-bas, nous avons à apprendre à être des dieux, à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Nous avons chuté en Ève et Adam. Quand Ève et Adam ont chuté, nous étions en eux. Ils sont nos parents terrestres. Et c'était voulu afin que nous apprenions la sainteté, la mise à part, afin que nous apprenions à être plus semblables à Dieu. Quand Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, il nous manquait quand même la connaissance du bien et du mal. Et croyez-moi, il nous manque encore des tas de choses. Et nous sommes en train d'y travailler, avec crainte et tremblement. Ce processus, mes frères et sœurs, il est continuel. Il exige de la patience dans l'épreuve, de la foi, du repentir constant. Il exige de l'obéissance au commandement de l'Évangile, de la confiance en Jésus-Christ. Ce processus, c'est un processus. Ça commence dès la naissance. On apprend les premiers principes de l'Évangile. Tout être humain, chrétien ou pas chrétien, parce que les lois sont gravées dans le cœur de tout homme, de toute femme, dans les bébés. Un bébé, il sait très bien déjà quand il fait quelque chose qui n'est pas net. Mais Dieu le considère innocent jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, ça change. Après, il devient responsable. Il ne devient pas coupable, il devient responsable. Mais mes frères et sœurs, je vous dis qu'on va continuer au-delà de notre vie mortelle ici. On va continuer encore à apprendre jusqu'à ce que nous puissions apprendre le dernier principe de l'évangile quand le moment sera venu. Tout ne peut pas être compris dans ce monde. Il faudra encore du temps après notre mort pour comprendre l'ensemble. C'est pourquoi la Bible dit, nous serons menés aux eaux. L'eau, c'est toujours la parole de Dieu. Pour apprendre encore. Et alors, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais déjà, maintenant, nous sommes dans ce monde tel que lui, c'est-à-dire tel que Jésus était. Ça, vous trouvez dans Jean 4, 17. C'est-à-dire que nous avons déjà tout en nous. Mais il faut progresser, il faut manifester comme Dieu a manifesté ce qui était en lui. Il faut que nous manifestions ce qui est en nous. Qu'est-ce qui est en vous? Alors, il y en a qui progressent et puis d'autres qui restent au lait, comme des nourrissons. Puis quand on veut leur donner un steak, ils disent, oh, tu nous gaves. Ben oui, ils supportent pas. Ils supportent pas la nourriture plus solide. Ils veulent, voilà, du blablabla. C'est pourquoi certains se qualifient pour devenir l'épouse et puis d'autres non. Parce que notre Père céleste est aussi notre Mère céleste, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est comme une poule qui veille sur ses poussins. C'est Jésus qui dit ça. Mais quand cet univers-là sera roulé comme un vieux manteau et jeté, et qu'il n'y aura plus de place devant Dieu pour ce truc-là, eh bien Dieu créera un autre monde avec son épouse, et il y aura donc une évolution sur le plan divin. Dieu sera marié. Ben oui, s'il a une épouse. La famille divine. Les choses seront très différentes. Pour le moment, si nous vivons en conflit avec la bonté de Dieu, on ne peut pas progresser. Parce que les pouvoirs du ciel ne peuvent pas être maîtrisés ou utilisés autrement que selon les principes de l'amour et de la justice. Voilà pourquoi nous avons à souffrir ici-bas pour pouvoir être capables d'hériter de cette gloire. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. La souffrance est nécessaire. Jésus nous dit ça dans une forme de parabole en disant l'or doit passer au creuset. Alors, ne vous laissez pas décourager. En fait, c'est ça le grand but de ma prédication. Ne vous laissez pas décourager. Notre passage sur terre, c'est pas long. Ça semble long, surtout quand c'est difficile. Vous avez remarqué, quand c'est bien, quand c'est bonnard, comme on dit en Suisse, bonnard, ça veut dire super, sympa et tout. Quand c'est bien, ça passe vite. Vous avez remarqué? Mais quand c'est difficile, ça semble long. Mais en réalité, ça n'est pas long à côté de l'éternité. Alors profitons de chaque instant pour progresser afin d'hériter le plus haut niveau de gloire. Certains chrétiens humbles, mais humbles, n'en veulent pas. Tout est bien. Tout est bien. Pourvu que vous soyez sauvés, c'est bien. Mais je crois que nous avons été choisis en cette fin des temps pour apprendre ces merveilles dans un but, celui d'atteindre la stature parfaite de Christ. Je le crois. Alors je vous en parle. Que Dieu vous bénisse avec tout cela. Méditez, c'est-à-dire réfléchissez à ces choses dans la présence de Dieu avec un bon état d'esprit et vous trouverez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Merci parce que tu m'as aidé à prêcher ce message. J'espère que c'était assez clair pour chacun et que chacun puisse se réjouir de ce grand plan merveilleux dans lequel nous sommes en train d'évoluer, ce processus merveilleux qui nous permet d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour te ressembler de plus en plus. Merci Jésus. Amen. Amen. Allez, au revoir, à bientôt.